Aujourd'hui, à la une de la science, Axel, trois publications sur le réchauffement climatique, rien que ça.
Oui, Mathieu, et toutes les trois sont parues fin août. Elles s'intéressent au bilan carbone de la planète et on y découvre que l'eau dans les sols, dont on parle très peu, a un effet important et direct sur le réchauffement climatique.
Alors comment ça, l'eau dans le sol peut influencer le CO2 dans l'atmosphère? Qu'est-ce que vous entendez là?
Par l'intermédiaire des plantes et des arbres, Mathieu. Quand l'eau est là, les végétaux vont bien et piègent du CO2. Mais quand l'eau manque, ça devient vite compliqué. Et pour en parler, nous recevons un des auteurs de ces travaux, le climatologue Philippe Siès. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Gif-sur-Yvette, spécialiste des gaz à effet de serre. Alors, cet impact des végétaux et de l'eau sur le bilan carbone, on le connaissait, mais assez mal au final. C'est un peu comme ça qu'il faut résumer vos travaux.
Ben oui, on le connaissait à l'échelle d'un site. Il y a plein d'expériences agronomiques. On voit bien que la végétation a besoin d'eau pendant sa saison de croissance. Mais on n'avait peut-être jamais réalisé l'importance vraiment planétaire de l'eau dans le sol comme réserve pour que les plantes puissent continuer à fixer du carbone. Et cette étude, en fait, ça montre que pendant les années qui sont particulièrement sèches, notamment les années El Niño, eh ben on a vraiment un déficit en eau du sol, juste au même moment où en fait la végétation pompe moins de carbone de l'atmosphère.
Alors, on dit souvent que les végétaux de la planète piègent 30% des émissions de CO2 par an. Est-ce qu'il va falloir revoir ce chiffre ou son importance dans le bilan carbone?
Alors, si il pleut moins sur certaines régions où les plantes ont déjà du mal, on dit qu'elles sont limitées par l'eau dans le sol, oui, probablement sur le long terme, on aura moins de capacité de fixation. Mais dans l'étude, en fait, on se sert de la variation interannuelle, c'est-à-dire les années sèches, les années humides, pour essayer justement de comprendre comment l'eau du sol va contrôler, sous la forme de grandes expériences naturelles, il y a des régions qui sont plus sèches certaines années, plus humides d'autres années, comment donc l'eau du sol va contrôler la capacité de la végétation à enlever du CO2. Et on fait ça grâce à des satellites. Par exemple, des satellites qui mesurent précisément quelque chose qui est proche de l'eau du sol, qui est en fait le champ de gravité terrestre.
Oui, cette partie-là de l'étude est très intéressante. C'est comment est-ce que vous avez fait pour savoir quelle quantité d'eau il y a à quel endroit sur la planète? Racontez-nous un petit peu cette histoire.
Alors,
de satellite.
Oui, c'est très difficile parce que l'eau, elle est enfouie, parfois profondément dans le sol. Et puis les plantes ont des racines qui vont parfois jusqu'à 10 ou 20 mètres. Donc on ne peut pas faire des mesures sur le terrain de la quantité d'eau dont disposent les plantes. Et finalement, on se sert de satellites qui mesurent en fait la masse terrestre du point au-dessus de la Terre, au-dessus de duquel les satellites passent. Mmh. Alors, on voit bien sûr la déformation, la forme de la Terre, mais si on regarde les variations d'un mois sur l'autre avec cette paire de satellites, parce qu'ils sont deux, qui s'appellent GRACE ou GRACE, eh bien là, on voit des changements de masse qu'on peut vraiment relier au changement d'eau du sol. Sur les glaciers aussi, on peut utiliser les mesures de GRACE, mais pour regarder les pertes de masse, c'est-à-dire la fonte des glaciers et des calottes polaires. On ne s'en est pas servi pour la glace de ces données de GRACE, mais on s'en est servi pour regarder les variations, les fluctuations ou les oscillations d'une année sur l'autre du contenu en eau dans les sols.
Alors justement, Philippe Siès, quelle est la variation à peu près du piégeage en CO2 d'un arbre issu d'un sol sec ou au contraire d'un sol humide?
Oh bah ça, il y a bien 50% de plus ou de moins de piégeage entre une année terriblement sèche et chaude, notamment dans les régions où déjà il n'y a pas beaucoup d'eau, les régions semi-arides qu'on trouve dans les tropiques, mais aussi dans les latitudes tempérées, hein, sur le pourtour méditerranéen, en Asie centrale, dans l'ouest des États-Unis. Et donc il y a bien 50% de plus ou de moins de fixation, suivant que les années sont humides ou bien qu'elles sont sèches.
Alors, Philippe Siès, à l'échelle de la planète et sur les 50-100 ans à venir, quelles sont les tendances? Est-ce qu'on va se rapprocher de plus de sécheresse ou au contraire de plus d'humidité?
Alors, ce que disent les modèles de climat, c'est évidemment la sécheresse des sols, elle n'est pas contrôlée que par les pluies, mais aussi par la température et par l'humidité, parce que c'est la température et l'humidité qui disent aux plantes combien d'eau elles vont perdre. Et donc finalement, l'eau du sol, c'est le bilan un peu subtil entre des pluies qui rentrent et puis la température, l'humidité qui contrôle les pertes par les plantes ou par les sols. Ce qu'on sait, c'est que dans les régions vraiment nordiques, polaires, l'Arctique, en principe, il va pleuvoir plus et il fera plus chaud. Les plantes vont pas manquer d'eau. Par contre, dans les régions sèches, Méditerranée, moyenne latitude, les régions semi-arides, par exemple d'Afrique du Sud et d'Australie, la plupart des modèles de climat nous disent qu'il va y avoir plutôt une tendance à l'aridification. Parce qu'il va faire plus chaud, ça on en est presque certain, bien sûr, sur ces régions-là, Et probablement aussi, mais les modèles sont moins d'accord entre eux sur les précipitations, parce que dans ces régions, on a aussi une tendance à la baisse des précipitations.
Est-ce que
de bonnes raisons.
Est-ce que vos résultats doivent changer notre manière de consommer l'eau ou de gérer les territoires sur nos latitudes intermédiaires ?
Alors, nos résultats, je pense qu'ils ne nous donnent pas trop d'informations sur la quantité d'eau qui est vraiment accessible pour la gestion, les lacs, les barrages, l'eau pour l'industrie, l'eau potable, etc. Par contre, ils nous montrent bien que la végétation, pour survivre, a besoin d'eau, que sa capacité à absorber du carbone, qui est quand même un service que la végétation rend à l'humanité de manière globale, est très dépendante du contenu en eau du sol. C'est pas quelque chose sur lequel on peut agir directement, mais ça nous montre bien finalement que notre planète, dans la plupart de ses régions, il y a peu de régions humides, il y a beaucoup de régions sèches, et donc l'eau du sol, c'est vraiment une variable fondamentale pour contrôler le fonctionnement de la végétation.
Et donc du CO2 également. Merci beaucoup Philippe Siès. Très intéressante étude dont vous venez de nous parler. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Gif-sur-Yvette. Bonne journée à vous.
Merci.
Et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, certains trous noirs auraient la capacité de ressusciter des étoiles mortes. Selon des chercheurs américains, les forces gravitationnelles générées par les trous noirs de taille intermédiaire pourraient, dans certaines conditions, relancer l'activité nucléaire d'étoiles déjà éteintes, comme les naines blanches. Bien que ces travaux soient issus de simulations, les chercheurs estiment que ces résurrections de quelques secondes seulement sont détectables grâce aux ondes gravitationnelles ou même par certains télescopes géants. Une intelligence artificielle très efficace pour prédire les répliques après un séisme sorte d'écho qui survient jusqu'à un mois après un gros tremblement de terre. Les répliques sont une des pires craintes des sauveteurs. Des chercheurs de l'université d'Harvard ont entraîné une machine avec une base de données de plus de 130 000 séismes passés, ainsi qu'un jeu de données topographiques associées. L'algorithme s'avère aujourd'hui capable de prédire avec une précision de 85% la survenue de certaines répliques dites statiques et qui sont associées à une déformation permanente des sols. C'est un grand pas en avant, en tous les cas, pour les sismologues. Et puis pour terminer, comptons les points sur le dos des coccinelles. Les motifs pointillistes arborés par ces insectes et leur nombre ont souvent été source de rumeurs scientifiques, reflets de l'âge ou bien marqueurs de différentes espèces. Que nenni, deux publications récentes, une française et l'autre japonaise, montrent que c'est bien des variations génétiques au sein des mêmes populations de coccinelles qui permettent de prédire le nombre de points sur leur dos. Les travaux français ont permis d'identifier un gène du développement dit gène panier qui, au stade embryonnaire, influence les populations de cellules pour donner les fameux points.